Chapitre 10. La Narcheska. Voici leur coutume concernant le mariage. Il dure aussi longtemps que la femme souhaite y rester. C'est elle qui choisit l'époux. Bien qu'un homme puisse faire la cour à une femme qu'il juge désirable en lui offrant des présents et en accomplissant, en son honneur, des exploits guerriers. Si une outrilienne accepte de se laisser courtiser, cela ne signifie nullement qu'elle se lie à son soupirant, mais seulement qu'elle peut l'accueillir ou non, selon son bon plaisir, dans son lit. Leurs bagnauderies peuvent se prolonger une semaine, un an, voire une vie entière, au choix de la femme. Tout ce qui se trouve sous un toit appartient à la femme, ainsi que les produits de la terre dont sa maison maternelle est propriétaire. Ses enfants dépendent de son clan et reçoivent en général leur éducation et leur instruction de ses frères et de ses oncles plutôt que de leur père. Tant que l'homme réside sur ses terres ou dans la maison de ses mères, elle a toute autorité sur le travail qu'il effectue. Au bout du compte, l'auteur s'interroge avec effarement. Pourquoi un homme accepte-t-il de son plein gré de jouer un rôle aussi effacé? Les Outriliens paraissent tout aussi stupéfaits de notre système et me demandent parfois « Pourquoi vos femmes renoncent-elles de plein gré à la fortune de leur famille pour devenir servantes chez un homme ?» Récit d'un voyage en terre barbare, du scribe Gérepu. La maison maternelle du clan du Narval tenait à la fois de la forteresse et du bâtiment d'habitation. C'était de loin le plus ancien édifice de Wisling. L'épaisse enceinte qui entourait ses terrains et son jardin constituait sa première ligne de défense, et s'il fallait néanmoins battre en retraite devant un envahisseur, les combattants pouvaient se retrancher dans la maison proprement dite, dont les marques d'incendie sur ses murs de pierre et ses poutres indiquaient qu'elle avait même résisté au feu. Aucune ouverture ne perçait le rez-de-chaussée. D'étroites meurtrières apparaissaient au premier étage, et seul le second possédait de vraies fenêtres. Muni toutefois de solides volets capables d'affronter n'importe quel projectile. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un château tel que nous le concevons. Aucun espace n'y était prévu pour abriter des moutons, voire un village entier, pas plus que pour entreposer de grandes réserves de vivres. Le bâtiment avait pour but de supporter l'assaut de pirates venus avec la marée et repartis avec elle plutôt que de soutenir un long siège. En cela aussi, les Outriliens différaient de nous et de notre façon de penser. À la porte de l'enceinte, deux jeunes hommes qui arboraient l'emblème du narval nous saluèrent de la tête et nous firent signe d'entrer. Passé la muraille, des coquillages broyés se mêlaient au gravier de la route et lui conféraient une opalescence scintillante. L'entrée de la maison maternelle, au battant grand ouvert et décoré de narval sculpté, permettait à trois hommes de la franchir de front. À l'intérieur régnait une profonde pénombre, trouée par l'éclat de torches allumées. On eût cru pénétrer dans une caverne. Nous nous arrêtâmes sur le seuil pour laisser nos yeux s'adapter au manque de lumière. Dans l'air flottaient les odeurs d'une longue occupation humaine. Arômes de nourriture, de ragoût, de viande fumée, de vin renversé, effluence de peau salée et de gens en groupe. Le résultat aurait pu être nauséabond, mais au contraire, il évoquait la douceur du foyer, la sécurité, la famille. Par la porte, on pénétrait directement dans une grande salle dont seuls les piliers cloisonnaient le volume. Les trois attes servaient à préparer la cuisine. Du beurre frais jonchait le pavage du sol, des bancs et des étagères s'appuyaient au mur. Les bancs les plus bas étaient larges et les couvertures de peau roulée expliquaient leur usage. Lit la nuit, siège et table le jour. Moins profondes, les étagères au-dessus d'eux servaient à ranger des victuailles et des affaires personnelles. L'éclairage provenait principalement des cheminées, bien que sur nombre de piliers fussent fixées des bougies à l'éclat insuffisant. À l'autre bout de la salle, dans l'angle de gauche, un escalier de vaste dimension montait vers les ténèbres. Je ne vis pas d'autre accès aux étages, et j'en compris aussitôt la raison. Même si un assaillant réussissait à s'emparer du rez-de-chaussée, les gens réfugiés au premier n'auraient qu'un point d'entrée à défendre, et l'envahisseur paierait chèrement la prise des parties supérieures de la maison maternelle. J'observais tous ces détails au travers de la foule. Partout, On voyait des groupes d'hommes et de femmes de tous âges, et l'on sentait vibrer dans l'air comme une attente impatiente. À l'évidence, nous étions en retard. Au fond de la longue salle, près de l'âtre le plus imposant, se tenait le prince Devoir, humbre, et son clan de vifs à ses côtés, sa garde derrière lui, sur trois rangs. Les membres du narval s'écartèrent pour nous permettre de prendre nos positions protocolaires. Tram et Lest allèrent se placer près de Niel et de Civil, accompagnés de son marguet de vif, tandis que je me postais au bout de la première rangée de gardes. Eliania n'était pas là. La petite foule réunie près de la cheminée, en face de notre délégation, se composait surtout de femmes. Péotr y figurait le seul homme adulte, encore dans la fleur de l'âge. Quelques grands-pères, quatre jeunes garçons guère plus vieux que la Narcheska, et six ou sept autres, dont les plus petits s'accrochaient encore aux robes de leur mère pour tenir debout, formaient le reste de l'ambassade masculine. La guerre des pirates rouges avait-elle donc décimé à ce point le clan du narval? Les matelots du sanglier étaient présents, mais ils demeuraient ensemble à l'écart, témoins plutôt que participants de la cérémonie à venir. Les gens qui peuplaient la salle appartenaient tous, ou presque, au narval, ainsi que l'indiquaient leurs bijoux, les emblèmes de leurs vêtements et leurs tatouages. Seules exceptions, quelques hommes accompagnés de femmes, sans doute des branches rapportées, époux ou partenaires d'unions informelles avec des filles du clan du narval. Je vis parmi eux des ours, des loutres et un aigle. Les femmes, toutes jusqu'à la dernière, étaient vêtues et parées de manière saisissante. Celles qui ne portaient pas de bijoux en or, en argent ou en pierres précieuses arboraient des ornements en coquillages, en plumes et graines séchées. La coiffure n'avait pas été négligée et ajoutait considérablement à la taille de certaines. Au contraire de Castelserre, où la gente féminine paraissait modifier ses atours avec une mystérieuse coordination, la maison maternelle offrait une vaste gamme de styles, et le seul thème commun au dessin des tenues, qu'il fût en perles, en broderie ou en tissage, semblait être l'usage de couleurs éclatantes et le motif du narval. Je supposais que, dans le groupe devant la cheminée, les membres du cercle extérieur appartenaient à la parentèle éloignée de la Narcheska, tandis que ceux qui se tenaient le plus près de l'âtre représentaient sa famille proche. Il n'y avait quasiment que des femmes, qui toutes affichaient une expression attentive, presque farouche. Il régnait dans cette partie de la salle une tension tangible. Je me demandais qui, dans la troupe qui nous faisait face, était la mère de la Narcheska, et aussi ce que nous attendions. Un silence absolu tomba. Puis quatre hommes du narval descendirent l'escalier et s'avancèrent, portant une petite vieille ridée dans une chaise faite de saules noueux et tendus de peau d'ours. Les tresses de sa maigre chevelure blanche formaient une couronne sur sa tête. Ses yeux étaient très sombres et brillants. Elle portait une robe rouge cousue d'innombrables boutons d'ivoire sur lesquels se répétait l'emblème du narval. Les hommes posèrent la chaise, non par terre, mais sur une lourde table, afin de permettre à la nouvelle venue de contempler sans quitter son siège ceux qui se réunissaient sous son toit. Avec un petit gémissement de douleur, elle se redressa et, très droite, nous regarda. Elle passa sa langue rose sur ses lèvres fripées. D'épaisses pantoufles en fourrure pendaient de ses pieds décharnés.
« Eh bien, nous voici tous rassemblés !»
déclara-t-elle. Elle s'était exprimée en outrilien, d'une voix trop forte, comme souvent les vieilles gens que la surdité gagne. Elle ne paraissait pas aussi attentive aux formes que l'exigeait la situation, ni aussi tendue que les autres femmes. La grande mère du clan du narval se pencha en agrippant de ses mains déformées le bois tordu de ses accoudoirs.
« Allons, qu'il s'approche donc !» Qui désire courtiser notre Eliania, notre Narcheska des narvals? Où est le guerrier qui a la témérité de demander la permission des mères de coucher avec notre fille?
Ce n'était pas, j'en suis sûr, les paroles auxquelles on avait préparé de voir. Il s'avança, rouge comme une betterave, exécuta une révérence de guerrier devant la vieille femme et déclara dans un outrilien sans faute: « Je me présente aux mères du clan du narval et les prie de m'accorder l'autorisation de joindre ma lignée à la leur. » Elle le considéra un moment, puis son expression s'assombrit, et elle dit, s'adressant non au prince, mais à un de ses jeunes porteurs.
« Que vient faire ici un esclave des six duchés ? Est-ce un cadeau ? Et pourquoi massacre-t-il notre langue en essayant de la parler ? Qu'on tranche la sienne s'il s'y risque à nouveau ?»
Un grand silence s'ensuivit, interrompu seulement par un brusque éclat de rire, vite réprimé au fond de la salle. Par miracle, Devoir conserva son aplomb et eut le bon sens de ne pas tenter de s'expliquer devant la grande mère courroucée. Une femme du groupe de la Narcheska s'approcha d'elle et, se dressant sur la pointe, se mit à lui parler avec animation à l'oreille. La mère l'écarta d'un geste agacé.
« Cesse ces crachotements, Almata ! Tu sais bien que je n'entends rien quand tu susurres ainsi. Où est Piotr ?»
Elle parcourut le sol du regard, comme si elle cherchait une chaussure égarée. Puis, elle leva les yeux, aperçut l'intéressé et fronça les sourcils.
« Et voilà, c'est lui que je comprends le mieux, tu le sais. Mais que fait-il au fin fond de la salle ? Viens ici, gredin effronté, et dis-moi ce qui se passe !»
Voir la vieille femme donner des ordres au guerrier confirmé qu'il était n'aurait pas manqué de piquant s'il n'avait arboré une expression aussi inquiète. Il se dirigea vers elle, mit un genou en terre et se releva aussitôt. Elle leva une main noueuse comme une racine d'arbre et la posa sur son épaule.
« Que se passe-t-il »
répéta-t-elle d'un ton impérieux. « Oertre, » répondit-il d'une voix basse et grave qui devait mieux pénétrer les vieilles oreilles que le chuchotis aigu de la femme. « Il s'agit d'Oertre, te rappelles-tu ? »
« Oertre ! »
fit-elle, et soudain, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle parcourut la salle du regard.
« Et Koussi, la petite Koussi, est-elle ici alors ? Nous est-elle enfin revenue ?»«
Non, » répondit Piotr. « Elles ne sont ici ni l'une ni l'autre, et voilà le pourquoi de cette assemblée. Tu ne l'as pas oubliée, n'est-ce pas ? Nous en avons parlé ce matin au jardin, t'en souviens-tu ?» Il hochait lentement la tête pour encourager la mère. Elle le regarda dans les yeux, hocha la tête elle aussi, puis s'arrêta et la secoua.
« Non !»
s'exclama-t-elle à voix basse.
« Je ne m'en souviens pas. La corbeille d'argent a défleuri et les prunes risquent de mal mûrir cette année. Je me rappelle que nous avons abordé ces sujets, mais non !» « Était-ce important, Piotr ?»«
Oui, grand-mère, très important. » Elle parut troublée, puis elle s'emporta.
« Important, important pour un homme, peut-être, mais que savent les hommes ?»
Sa vieille voix, stridente et cassée, se teinta de violente dérision. Elle se frappa la cuisse du plat de sa main maigre.
« Culbuter les filles et verser le sang, voilà tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils croient important. » Que savent-ils de la tonte des brebis, des récoltes des jardins, du nombre de tonneaux de poissons en saumure et de pannes de porc qu'il faut pour l'hiver ? Important ! Eh bien, si ça l'est à ce point, Coertre s'en occupe. Elle a fonction de mère aujourd'hui, et je devrais pouvoir me reposer enfin. »
Elle ôta la main de l'épaule de Piotr et agrippa les accoudoirs de son siège.
« J'ai besoin de repos, » fit-elle d'un ton plaintif.
« Oui, grande-mère, c'est vrai. Prends-le dès maintenant, et je veillerai à ce que tout se déroule comme il faut. Je te le promets. » Et sur ces mots, Eliania sortit des ombres de l'escalier et descendit à pas pressés. Ses pieds légèrement chaussés semblaient à peine effleurer les marches. Une partie de ses cheveux était relevée en chignon, tenue par des épingles en forme d'étoile. Le reste tombait librement sur ses épaules. L'effet ne paraissait pas voulu, et, de fait, deux jeunes femmes firent mine de la suivre, puis s'arrêtèrent avec une expression horrifiée en échangeant des murmures. Elle devait préparer la Narcheska pour son apparition lorsqu'elle avait entendu des éclats de voix et leur avait échappé pour se précipiter dans la salle. Je reconnus son maintien davantage que sa silhouette quand la foule s'ouvrit pour lui livrer passage, car à l'instar de devoir, elle avait grandi depuis la dernière fois que nous l'avions vue. Plusieurs mois auparavant, et ses rondeurs enfantines avaient fait place à des formes plus adultes. Comme elle passait devant ses parentes en rang, je ne fus pas le seul représentant masculin des six duchés à réprimer un hoquet de saisissement. Sa robe cachait ses épaules et son dos, mais dénudait sa poitrine fièrement dressée. Avait-elle fardé ses mamelons pour leur donner cette vive teinte rose? Alors que je me posais cette question, je sentis ma chair s'éveiller. L'instant suivant, je dressais toutes mes murailles et gourmandais de voir. Surveillez vos pensées. Il dut m'entendre, mais n'eut pas un tressaillement. Fasciné, il regardait les seins nus de la Narcheska comme s'il n'avait jamais vu la gorge d'une femme. Ce qui était, très probablement, le cas. Sans un coup d'œil pour son expression ébahie, elle se rendit auprès de la grande mère. « Je m'en occupe, Piotr, » dit-elle de sa nouvelle voix de femme. Puis elle s'adressa au porteur du fauteuil. « Vous avez entendu notre grande mère, elle désire se reposer. Remercions-la tous d'avoir honoré notre réunion ce soir, et souhaitons-lui un sommeil calme et des os sans douleur. » Un murmure général reprit la formule. Puis les porteurs soulevèrent la vieille femme sur son siège et l'emportèrent. Très droite, sans un mot, la Narcheska la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparût dans l'obscurité de l'escalier. Puis elle respira profondément. À présent, le prince contemplait fixement son dos. Le ressaut en haut de sa colonne vertébrale, révélé par ses cheveux remontés et son cou gracieux. Je songeais que les couturières avaient bien travaillé. Ses tatouages ne dépassaient pas le moins du monde du col de sa robe. Je vis Imbre donner un discret coup de coude à devoir. Le jeune homme sursauta, comme s'il émergeait brusquement d'un rêve, puis il se prit d'un soudain intérêt pour les pieds de Piotr. Le guerrier l'observait sans se cacher, ainsi qu'un chien mal éduqué, prêt à voler de la viande sur la table si on ne le surveillait pas. La Narcheska carra les épaules, puis elle se tourna face à nous et parcourut l'assemblée du regard. La parure qui ornait ses cheveux était sculptée dans une défense de narval, et je ne sais comment l'artisan avait obtenu le bleu iridescent dont elle luisait. Les petites épingles en étoiles scintillaient tout autour, et il ne demeurait en moi plus aucun doute que la statuette trouvée par le prince sur la plage au trésor préfigurait cet instant. En revanche, j'ignorais toujours ce que ce présage signifiait, et je n'avais pas le temps de me pencher sur la question. Par extraordinaire, la Narcheska s'était mise à sourire, d'un sourire qu'on sentit un peu contraint lorsqu'elle éclata d'un petit rire et haussa les épaules.
J'ai oublié ce que je devais dire à présent. Quelqu'un veut-il prononcer les paroles de la mère à ma place?
Puis, avant que quiconque eût le temps de répondre, elle porta le regard sur devoir. Il le soutint, et s'il avait rougi auparavant, il brûlait littéralement désormais. Sans prêter attention à sa confusion, elle déclara d'un ton calme.
Vous le voyez, nous combinons deux de nos traditions ce soir. Il se trouve que le temps est venu pour moi de me présenter devant mon clan en tant que femme qui a son sang, et ce même jour, vous vous proposez comme compagnon pour moi.
Je vis les lèvres du prince bouger. Je pense qu'il répéta les mots « femme qui a son sang », mais nul son ne sortit de sa bouche. De nouveau, elle éclata de rire, mais sans aucune gaieté. On eût cru entendre le bruit d'une mince épaisseur de glace.
Votre peuple n'a-t-il aucune cérémonie pour cela? Un garçon ensanglante son épée pour devenir un homme, non? Par sa capacité à tuer, il annonce qu'il est achevé. Ce qu'un homme peut prendre par l'épée, une femme peut le donner par sa seule chair, la vie.
Elle posa ses mains que n'ornait nulle bague sur son ventre plat.
J'ai versé mon premier sang. Je puis faire naître la vie en moi. Je me présente devant vous, désormais femme.
Un murmure monta de toute la salle.
Bienvenue, Eliania, femme du clan du narval.
Je sentis que la jeune fille avait retrouvé l'état d'esprit et les paroles du rite. Piotr s'était reculé pour réintégrer le rang des hommes. Les femmes s'attroupèrent autour d'Eliania et chacune l'accueillit dans le clan du narval par une formule consacrée. Les yeux agrandis, les cheveux tombant librement sur les épaules, d'autres jeunes filles formaient un groupe à l'écart et regardaient la Narcheska.
L'une d'elles, plus grande que les autres et proche elle-même de devenir une femme, désigna Devoir du doigt et adressa une remarque approbatrice à deux de ses voisines. Avec un petit rire, elles se rapprochèrent et se mirent à échanger des propos à voix basse en se poussant du coude. Sans doute étaient-elles naguère les camarades de jeu et les compagnes d'Eliania, mais celle-ci venait de s'éloigner d'elle pour entrer dans les rangs des adultes. L'aisance avec laquelle elle avait pris la situation en main me laissait penser que, sous de nombreux aspects, elle avait depuis longtemps le statut de femme parmi elles, et la cérémonie dont nous étions témoins servait seulement à reconnaître officiellement que son corps commençait à rattraper son esprit. Après le dernier souhait de bienvenue, Eliania se retira du cercle de lumière que projetait la cheminée. Le léger brouhaha des commentaires chuchotés se tut, et le silence se fit. Un instant, je perçus la gêne de certains. Péotre, qui dansait d'un pied sur l'autre, se reprit et se contraignit à l'immobilité. Devoir resta où il se trouvait, et à l'évidence, les quelques minutes qui s'écoulèrent durèrent des heures pour lui. Enfin, la jeune femme qui avait parlé à l'oreille de la grande mère s'avança, les joues un peu rouges. Manifestement, elle avait l'impression d'outrepasser son rang, mais personne d'autre ne s'était proposé pour remplir le rôle. Elle s'éclaircit la gorge et d'une voix légèrement chevrotante déclara « Je suis Almata, fille des mères du clan du Narval. Je suis cousine de la Narchesca Eliania et de 6 ans son aînée. Malgré mon indignité, je m'exprimerai à la place de la grande mère. » Elle s'interrompit comme pour laisser le temps à qui le voudrait de disputer sa place. Il y avait des femmes plus âgées, mais elles gardèrent le silence. Quelques-unes hochèrent imperceptiblement la tête d'un air encourageant. La plupart avaient toutefois l'air accablé. Almata respira profondément pour se calmer et poursuivit. « Nous voici réunis dans notre maison maternelle parce qu'un homme extérieur à notre clan se présente parmi nous, désireux de joindre ses lignées aux nôtres. Il demande, non une femme quelconque, mais notre Narchesca Eliania, dont les filles deviendront à leur tour Narchesca, mère et grande-mère de tous. Approche, guerrier. Qui souhaite courtiser notre Eliania, notre Narchesca des Narval? Qui est le guerrier assez téméraire pour prier les mères de l'autoriser à coucher avec notre fille et à lui donner des filles à élever comme future mère du clan du Narval? » Devoir prit une inspiration hachée. Faux pas qu'il n'aurait pas dû commettre. Il aurait dû se dominer davantage. Mais je ne pouvais lui faire de reproche. Il régnait une atmosphère insolite dans la salle, et elle ne tenait pas qu'à la présence d'étrangers dans une cérémonie outrilienne. Je sentais une volonté de refermer une brèche, l'espoir de réparer une tragédie en revenant à la tradition. Cependant, la prudence nous était interdite. D'une voix ferme, Devoir répondit. « Me voici. Je désire la Narchesca Eliania du clan du Narval pour mère de mes enfants. Et comment subviendras-tu à ses besoins et à ceux des enfants que tu lui donneras? Qu'as-tu à apporter au clan du Narval pour que nous te permettions de mêler tes lignées aux nôtres? » Nous nous retrouvions sur un terrain plus ferme. Imbre nous avait bien préparés pour cette circonstance. Je m'écartais avec à peine un temps de retard sur les autres gardes. Derrière nous, un grand tissu recouvrait une accumulation de présents. Longue mèche ôta le drap, et l'un après l'autre, chaque garde prit un objet pour le présenter, tandis qu'Imbre en annonçait la nature. Devoir conserva un silence orgueilleux pendant qu'on apportait ses offrandes à la Narchesca et à Almata. Il pouvait se montrer fier à juste titre. Rien n'avait été épargné. Une partie des présents nous avait accompagnés, transférés en toute hâte du Fortune de Vierge dans le cartanier. Entre autres, des barriques d'eau-de-vie de Orphon, une balle de peau d'hermine venue du royaume des montagnes et des perles de verre colorées de la bourre, entretissées dans une tapisserie à suspendre devant une fenêtre, des boucles d'oreilles en argent, fabriquées de la main même de Kétriken, du drap de coton, de lin et de laine fine de Béarn. D'autres articles n'étaient mentionnés que sous forme de promesses ou de cargaisons qui viendraient de Zilig lors d'un prochain voyage. La lecture de la liste complète prit quelque temps. Le travail de 3 forgerons talentueux pendant 3 ans, 1 taureau et 12 vaches de nos meilleures races, 6 couples de bœufs, 1 attelage de chevaux assortis, des matins et deux émerillons dressés comme oiseaux de chasse pour les dames. Enfin, certains présents, Quimbre offrit au nom du prince, relevait encore du rêve. Paix et commerce entre les six duchés et les îles d'outre-mer, dons de blé lorsque la pêche serait mauvaise, fer de bonne qualité et liberté de négoce dans tous les ports du royaume. L'inventaire s'éternisait et je sentais la fatigue de la journée m'envahir peu à peu. Mais je retrouvais toute ma vigilance quand le vieillard se tut et Kalmata reprit la parole. « Nous avons entendu la proposition faite à notre clan. Mère, fille et sœur, qu'en dites-vous? L'une d'entre vous veut-elle s'y opposer ?» Le silence lui répondit. À l'évidence, il indiquait l'approbation, car Almata hocha la tête d'un air grave, puis elle s'adressa à Eliania. « Cousine, femme du clan du Narval, Eliania la Narchesca, quelle est ta volonté? Désires-tu cet homme? Veux-tu le prendre pour tien ?» Je vis les muscles du cou de Péotre se crisper quand la mince jeune femme s'avança. Devoir tendit la main, la paume vers le haut, elle se plaça près de lui, épaule contre épaule, et posa la main à plat sur la sienne. Elle se tourna vers lui, et quand leurs regards se croisèrent, mon garçon rougit à nouveau. « Je veux le prendre, » répondit-elle avec solennité. J'observais qu'elle omettait de dire si elle le désirait ou non. Elle reprit son souffle et poursuivit d'une voix plus sonore. « Je veux le prendre. Il partagera ma couche et nous donnerons des filles à la maison des mères s'il accomplit la tâche que je lui ai désignée. S'il parvient à rapporter ici devant cet âtre la tête du dragon glace-feu, il pourra me donner le nom d'épouse. » Les paupières de Péotre se fermèrent un instant. Puis, par un effort de volonté, il les rouvrit pour voir sa fille-sœur se vendre. Un léger sursaut, peut-être dû à un sanglot étouffé, agita ses épaules. Almata tendit la main à son tour et on y déposa une longue lanière de cuir. Elle s'approcha du couple et déclara en nouant les poignets de Devoir et d'Eliania. Ce lien vous attache comme vos paroles. Tant qu'elle t'accepte, ne couche avec aucune autre, Devoir, ou la vie de cette femme appartiendra au poignard d'Eliania. Tant qu'il te plaît, Eliania, ne couche avec aucun autre, ou cet homme devra affronter l'épée de Devoir. À présent, mêlez vos sangs sur les pierres d'âtre de notre maison maternelle, en offrande à Eda pour les enfants qu'elle vous enverra peut-être. Je n'avais nulle envie d'assister à ce spectacle, mais je m'y obligeais. On remit le poignard d'abord à Devoir. Sans trahir de douleur, il s'entailla le bras, puis, sa main libre en coupe, il attendit que le ruisselet rouge atteignît le lien de cuir et dégoutta dans sa paume. Eliania l'imita, grave, voire impassible, comme si elle s'était enfoncée si loin dans le déshonneur que plus rien ne la touchait. Quand chacun eut récupéré une petite quantité de sang, Almata guida leurs mains et les referma l'une sur l'autre. Ensuite, ils s'agenouillèrent et plaquèrent leurs paumes sur la pierre d'âtre pour y laisser l'empreinte de leur sang mélangé. Enfin, ils se retournèrent vers l'assistance, Almata dénoua leurs poignets et offrit la lanière à Devoir, qui l'accepta solennellement. La remplaçante de la grand-mère se plaça derrière eux et posa les deux mains sur leurs épaules. Malgré la joie qu'elle s'efforça d'y mettre, c'est d'une voix qui me parut terne qu'elle annonça « Les voici devant vous !» Unis et liés par leurs paroles. Souhaitez-leur le bonheur, peuple de mon clan. » Au murmure d'assentiment qui s'éleva des gens assemblés, on eût cru qu'ils applaudissaient un acte d'une grande bravoure plutôt que l'union heureuse d'un couple amoureux. Eliania courba la tête sous l'approbation des siens, au blas dont j'étais incapable de mesurer le sacrifice.
« Ça y est, je suis mariée. »
L'étonnement, la consternation et l'indignation résonnaient dans la pensée qu'émit brusquement Devoir. « Non, tant que vous n'avez pas rapporté la tête d'un dragon à Eliania, » répondis-je.
« Ni tant que la cérémonie officielle n'a pas eu lieu à Castelserre, » ajouta Imbre, plus consolant que moi.
Le prince paraissait plongé dans la stupeur. Une soudaine agitation s'empara de la salle. On installa des planches sur des tréteaux, puis on y disposa des plats. Des ménestrels commencèrent à jouer de leurs instruments avant et à chanter. Fidèles à leur tradition, il déformait tant les mots pour les adapter à la mélodie que je ne comprenais pratiquement rien. Je remarquais que deux d'entre eux allaient saluer Niel et l'invitaient à se joindre à eux dans leur coin de la salle. Ce geste de bienvenue paraissait sincère et, encore une fois, je m'émerveillais de la compréhension universelle qui semble exister entre les musiciens de tous horizons. Par le biais de l'art, Devoir me transmit ce que lui murmurait Eliania. « Maintenant, vous devez me tenir la main et m'accompagner pour que je vous présente à mes cousines aînées. N'oubliez pas qu'elles sont mes doyennes. Bien que Narcheska, je leur dois la déférence que leur vaut leur âge, et vous aussi. » Elle s'adressait à lui comme à un enfant. « Je m'efforcerai de ne pas vous faire honte, » répondit-il d'un ton guindé. Je fis la grimace sans toutefois pouvoir lui reprocher entièrement ses propos. « Dans ce cas, souriez et taisez-vous, comme il s'y est un guerrier dans une maison maternelle qui n'est pas la sienne, » répliqua-t-elle. Elle lui prit la main et l'entraîna, sans laisser le moindre doute que c'était elle qui le menait et non le contraire. Je songeais à part moi qu'elle le conduisait comme un taureau de concours par l'anneau passé dans son mufle. Les femmes ne vinrent pas à la rencontre de Devoir. Eliania alla de groupe en groupe, et chaque fois le prince exécuta le salut de guerrier en usage dans les îles d'outre-mer, c'est-à-dire qu'il tendait sa main d'épée, vide, sa paume rougie de sang tournée vers le haut, et inclinait la tête. Elle l'examinait en souriant et faisait des remarques à la Narcheska sur son choix. J'avais l'intuition qu'en d'autres circonstances, leurs réflexions eussent été badines et taquines, mais en l'occurrence, les compliments restaient mesurés et polis. Au lieu d'alléger la tension de l'engagement officiel, ils la prolongeaient. Voyant les groupes de guerriers outriliens se disperser, Imbre nous donna la permission de rompre les rangs. « Garde les oreilles et les yeux ouverts, » me dit-il alors que je me frayais un chemin parmi la foule. « Toujours, » répondis-je. Il ne me recommanda pas de ne pas perdre le prince de vue, cela allait de soi. Tant que je n'avais pas découvert ce qui se cachait derrière le masque impassible de nos hôtes, j'ignorais qui lui voulait ou non du mal. Je déambulais donc au milieu des festivités, sans m'éloigner trop de Devoir et en conservant un léger contact d'art avec lui. Le banquet n'avait guère de points communs avec ses équivalents de Castelserre. Les invités n'avaient pas de place définie en fonction de leur rang ou de la faveur dont ils jouissaient. Chacun se servait dans les plats disposés sur de grandes tables, puis mangeait en allant et venant. Des moutons rôtis à la broche restaient au chaud près de la cheminée, et sur des plateaux s'amoncelaient des volailles grillées. Je goûtais ainsi du demi-bec fumé, épicé, craquant sous la dent et d'une saveur étonnante. Les pains outriliens étaient noirs, sans levain, cuits sous forme de grandes galettes plates. Les convives en déchiraient un morceau de la taille voulue, et y entassaient des légumes tranchés en petits morceaux et conservés dans le vinaigre ou bien le trempaient dans l'huile de poisson et le sel. Toutes les viandes avaient trop de bouquets pour moi, conservées pour la plupart dans la saumure fumée ou salée. Seuls les moutons et les volailles étaient frais, et encore, les avait-on assaisonnés d'une espèce d'algue. On mangeait, on buvait, on bavardait, les musiciens jouaient, on pariait sur un concours de jonglerie, le tout simultanément dans un vacarme assourdissant. Peu à peu, toutefois, je pris conscience d'un phénomène inattendu. De jeunes femmes du Narval abordaient non seulement nos hommes d'armes, mais aussi Niel et Civil. Je vis plusieurs gardes sourire d'un air suffisant en suivant leurs partenaires à l'extérieur ou dans l'escalier obscur. « Les outriliennes tentent-elles d'éloigner la garde de Devoir ?» artisais-je avec angoisse à Imbre.
« Ici, ce sont les femmes qui choisissent, » répondit-il. Elles n'ont pas les mêmes coutumes que nous sur la chasteté, et on a demandé à nos gardes de rester prudents, mais non de glace. Les compagnons et les guerriers du prince doivent se montrer ouverts aux invites, mais sans faire le premier pas. Approcher une femme qui n'a pas d'abord manifesté son intérêt constituerait une infraction aux règles de l'hospitalité. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, les hommes manquent dans cette maison, et il y a beaucoup moins d'enfants qu'on ne s'y attendrait, au vu du nombre de femmes. Ici, un ventre fécondé un soir de noces annonce un enfant à qui la fortune sourira. Pourquoi ne m'en a-t-on rien dit jusqu'ici? Cela te dérange?
Après avoir jeté quelques coups d'œil discrets sur la salle, je repérai mon vieux mentor. Installé sur un banc, il grignotait une cuisse de poulet en bavardant avec une outrilienne de moitié moins âgée que lui. J'entraperçus Civil et son marguet qui disparaissaient dans les étages. Celle qui tenait la main de l'adolescent avait au moins 5 ans de plus que lui, mais il ne paraissait pas intimidé. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter de l'Est, évaporé lui aussi. Assurément, il était trop jeune pour intéresser ses délurés. Soudain, je me rendis compte que Devoir quittait la salle au milieu de la troupe bavarde et rieuse des amis de la Narcheska. Eliania n'avait pas l'air enchantée, mais elle franchit la porte sans lui lâcher la main. J'eus du mal à le suivre. Une femme qui portait un plateau de friandises vint se placer sur mon chemin. Et je feignis une indifférence obtuse lorsqu'elle m'offrit plus que ses sucreries poisseuses. Je m'en emparai d'une poignée avec une gourmandise grossière et la dévorai en 2 bouchées. Bizarrement, cette attitude la flatta, et elle posa son plateau pour m'emboîter le pas. Je n'avais pas réussi à me débarrasser d'elle quand je parvins à la sortie. « Où est le petit coin ?» lui demandai-je. Elle ne comprit pas l'euphémisme, et je lui expliquai par geste ce que je cherchais. La mine perplexe, elle m'indiqua un petit édicule et retourna aux festivités. Tout en me dirigeant vers le bâtiment, je parcourus les alentours du regard à la recherche de Devoir. Je vis plusieurs couples dans la cour, à divers stades de badinage, et 2 garçons qui rapportaient de l'eau tirée d'un puits. Où étaient-ils donc passés? Je l'aperçus enfin, assis à côté d'Eliania, sur une butte herbue sous de jeunes pommiers. Les autres filles s'étaient installées en rond autour d'eux. Elles n'avaient pas encore le statut de femme, comme l'attestaient leurs cheveux dénoués. Je leur donnais entre 10 et 15 ans. C'étaient sans doute les amies d'Eliania depuis des années avant ce soir. Elles se séparent d'elles en changeant de condition. « Pas complètement, » répondit-il d'un ton aigre. Elle me jauge comme un cheval acheté à bas prix au marché. Si c'est un guerrier, où sont ses cicatrices? N'a-t-il donc pas de clan maternel? Pourquoi n'aborde-t-il pas son tatouage? Elle taquine la Narcheska, une en particulier véritable teigne. Elle s'appelle Lestra, et c'est une cousine d'Eliania, plus âgée qu'elle. Elle se moque d'elle, lui dit qu'elle a peut-être officiellement rang de femme, voire d'épouse, mais que ça l'étonnerait qu'on l'ait déjà embrassée. Lestra prétend avoir échangé des baisers, et des vrais, plusieurs fois, alors qu'elle n'a pas encore saigné. Fitz, les filles de ce pays n'ont-elles donc ni vergogne, ni réserve? Mon intuition me donna la réponse. Devoir. Il s'agit d'un rite d'expulsion. Eliania ne fait plus partie du groupe, et elles vont passer la soirée à l'asticoter et à la tourmenter. Elle n'y aurait pas échappé. Ces agaceries appartiennent peut-être même à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Puis j'ajoutais, bien que ce fût inutile, soyez prudent. Laissez-la vous conduire afin de ne pas risquer de l'humilier. « Mais j'ignore ce qu'elle veut de moi !» répondit-il d'un ton désespéré. « Elle m'assassine du coin de l'œil, mais s'accroche à ma main comme à une corde en pleine tempête. » Aussi clairement que si je me tenais à côté de lui, je vis la scène par notre lien d'art. La jeune goguenarde dépassait Eliania en taille et peut-être aussi en âge. J'en avais appris assez long sur les femmes pour savoir que leur première menstrue ne se tenait pas qu'au nombre de leurs années. De fait, hormis le fait que ses cheveux n'étaient pas attachés, je l'aurais cru déjà réglée. Narquoise, elle se gaussait de sa cousine. « Tu le lis à toi pour que personne ne te le prenne, mais tu n'oses même pas l'embrasser. » Et si je ne désirais pas de baiser tout de suite? Si je préférais attendre la preuve qu'il est digne de moi? Lestra secoua la tête et les clochettes fixées dans sa chevelure tintinabulèrent. D'un ton moqueur, elle rétorqua. « Non, Eliania, nous te connaissons. Enfant, tu étais la plus soumise et la moins audacieuse d'entre nous. Femme, tu n'as pas dû changer. Tu n'as pas le courage de l'embrasser. Et il est trop timoré pour s'y risquer. C'est un gamin aux joues lisses qui joue à l'homme fait. N'ai-je pas raison, prince? Vous êtes aussi peureux qu'elle. Je pourrais peut-être vous apprendre l'audace. » Il ne regarde même pas ses seins, mais peut-être ne les voit-il pas, tant ils sont petits. Je plaignais de voir, mais je n'avais aucun conseil à lui donner. Je m'assis sur le muret de pierre qui saignait le verger récemment planté. Puis je me frottais les joues, comme quelqu'un qui a trop bu, et s'efforce de chasser les picotements de son visage. J'espérais qu'on me croirait ivre et qu'on me laisserait tranquille. Assister à l'épreuve que traversait de voir ne me réjouissait pas, mais je refusais de courir le risque de le quitter. Les épaules voûtées, je fis semblant de regarder au loin d'un air vide tout en surveillant le prince du coin de l'œil. Prenant sur lui, Devoir déclara d'un ton compassé. « Ou peut-être tiens-je la Narcheska en trop haute estime pour prendre ce qu'elle n'a pas offert. » Tandis qu'il prononçait ces mots, je sentis sa farouche détermination de ne pas regarder la poitrine d'Eliania. Pourtant, il avait conscience d'elle, nue et chaude près de lui, et cela l'épuisait. Il ne vit pas le coup d'œil en coin de la jeune fille. Cette réponse ne lui plaisait pas.
« Mais moi ?
Vous ne me respectez pas, n'est-ce pas ? » reprit Lestra, railleuse. « Non, » répondit-il sèchement, « je ne crois pas. »
« Alors la question est résolue. Faites la preuve de votre audace et embrassez-moi, » lança-t-elle triomphante. « Ensuite, je pourrai dire à Eliania si elle manque quelque chose ou non. »
Et comme pour le forcer à obéir, elle approcha soudain son visage du sien, tandis que sa main se portait sournoisement vers son entrejambe.
« Tiens, tiens !» s'exclama-t-elle d'un ton malicieux, alors que Devoir se dressait d'un bond avec un cri outragé. « Il attend plus qu'un baiser de toi, Eliania. Vois donc, son soldat a dressé sa tente. Le siège durera-t-il longtemps ?»«
Ça suffit, Lestra !» gronda Eliania. Debout, elle aussi, les joues enflammées, elle foudroyait sa rivale du regard. Ses seins nus s'élevaient et descendaient au rythme de sa respiration furieuse.
« Pourquoi ? À l'évidence, tu ne veux rien faire d'intéressant avec lui. Pourquoi ne le prendrais-je pas ? En toute justice, il devrait me revenir, tout comme devrait me revenir la place de Narcheska. Et cette place, je l'aurai quand il t'emmènera pour faire de toi une inférieure dans sa maison maternelle. »
Plusieurs jeunes filles eurent un hoquet de saisissement, mais le regard d'Eliania flamboya seulement davantage. « Tu répètes ce mensonge depuis toujours, Lestra. Ton arrière-grand-mère était la puinée des jumelles. Les deux sages-femmes l'attestent. Première sortie du ventre ne signifie pas toujours aînée, Eliania. Beaucoup le disent. Nouvelle-née, ton arrière-grand-mère ressemblait à un chaton souffreteux qui miaule pitoyablement. La mienne était une petite fille saine et vigoureuse. Ta bisaïeule n'avait aucun droit de devenir Narcheska, ni sa fille, ni sa petite-fille, ni toi. »
Un chaton souffreteux, vraiment ? Alors comment expliquer qu'elle soit encore en vie et demeure grande mère ?
Ravale tes mensonges, Lestra, ou je te les renfoncerai moi-même au fond de la gorge. » Eliania s'exprimait d'une affreuse voix monocorde, mais qui portait. Nombre de gens observaient désormais la querelle. Devoir s'avança, la bouche ouverte pour prendre la parole, mais la Narcheska le repoussa d'un coup du plat de la main dans la poitrine. Les jeunes filles formèrent un cercle autour des deux adversaires, tandis qu'il demeurait à l'extérieur. Il se tourna vers moi, comme pour demander mon aide. « Mieux vaut vous tenir à l'écart, je pense. Eliania vous l'a clairement indiqué. » J'espérais lui avoir donné un bon conseil. Comme j'essayais d'artiser Imbre pour le prévenir de la situation, je vis Péotre. Il avait dû se tenir jusque-là près du coin du bâtiment, hors de mon champ de vision. D'un pas flânant, il s'approcha du muret où je restais assis et s'y appuya nonchalamment. « Il aurait intérêt à ne pas s'en mêler, » me dit-il d'un ton dégagé. Avec un mouvement de la tête exagéré, je portai vers lui un regard flou.
« Qui ça ?»
Ses yeux se plantèrent dans les miens. « Votre prince, qui laisse Eliania régler la question. Il s'agit d'une affaire de femme, et une intervention de sa part serait mal accueillie. Tâchez de l'en avertir si vous pouvez. » Péotre dit que vous devez vous tenir en retrait et laisser Eliania trancher le différend.
Quoi ?
Fit Devoir abasourdi.
Pourquoi Péotre t'a-t-il adressé la parole ?
Demanda Imbre tendu.
Je n'en sais rien.
Au Kaempra, je répondis. Je ne suis qu'un garde, messire. Je n'ai pas de conseil à donner au prince. Vous êtes son garde du corps, répliqua-t-il avec affabilité, ou son, comment dirait-on dans votre langue, son chaperon, comme moi pour Eliania. Vous êtes doué, mais pas invisible. Je vous ai vu le surveiller.
Je suis garde. Alors, je le garde, c'est tout,
protestai-je en m'efforçant de prendre une élocution un peu embarrassée. Je regrettais de n'avoir pas emporté un verre de vin. L'odeur de l'alcool peut ajouter une note très convaincante quand on feint l'ivresse. Mais il ne me regardait plus. Je me tournais vers la butte du verger tandis que quelqu'un poussait un cri derrière moi, à la porte de la maison des mères, et que j'entendais des gens se précipiter au dehors. La bagarre avait éclaté entre les deux jeunes filles. Sans effort apparent, Lestra jeta Eliania sur le dos, et malgré la distance, je perçus le bruit de l'air violemment expulsé de ses poumons. Péotr poussa un grognement de colère impuissante, avec les petits mouvements à peine esquissés des combattants aguerris, quand ils observent un de leurs meilleurs élèves lors d'un tournoi. Comme Lestra se jetait sur Eliania étendue par terre, son adversaire releva brusquement les genoux contre sa poitrine et la frappa de ses deux pieds joints dans le ventre. Violemment projeté en arrière, l'autre se reçut mal et heurta brutalement le sol. Eliania s'agenouilla vivement et, sans égard pour sa belle robe ni sa coiffure, bondit sur Lestra. Les muscles de la nuque et des bras de Péotr se tendirent comme des cordes, mais il ne bougea pas. Je me levai pour mieux voir et restai bouche bée comme les autres gardes de Castelcerf. Les Outriliens sortis assister à la rixe manifestaient de l'intérêt, mais aucune surexcitation. Manifestement, les bagarres entre jeunes filles ou jeunes femmes ne présentaient à leurs yeux aucun caractère choquant. Assise sur le haut de la poitrine de Lestra, les genoux sur ses bras, Eliania avait efficacement plaqué son adversaire au sol. L'autre ruait et se débattait, mais la Narchesca l'avait saisi par les cheveux et lui immobilisait la tête dans l'herbe. De sa main libre, elle lui enfonça une poignée de terre dans la bouche.
« Que la bonne terre propre efface le mensonge de tes lèvres » cria-t-elle d'un air triomphant.
Devoir se tenait à l'écart, hébété. La danse sauvage des seins nus d'Eliania, au rythme de sa respiration haletante, ne le laissait pas indifférent, et je le sentais aussi horrifié de sa propre réaction physique que du combat lui-même. Autour de lui, les autres jeunes filles bondissaient en poussant des cris d'encouragement aux deux adversaires. Avec un hurlement terrible, Lestra secoua violemment la tête et échappa à la poigne d'Eliania au prix d'une épaisse mèche de cheveux. La Narchesca la gifla durement, puis la prit à la gorge.
« Reconnais-moi le titre de Narchesca ou je t'étrangle sur le champ » cria-t-elle. « Tu es la Narchesca ! Tu es la Narchesca !»
brailla l'autre d'une voix stridente. Puis, elle se mit à sangloter convulsivement, de rage et d'humiliation plus que de douleur. Prenant appui sur sa figure, Eliania se releva.
Laissez-la !
Lança-t-elle d'un ton menaçant à deux filles qui s'approchaient pour aider la vaincue.
Qu'elle reste étendue par terre, et s'estime heureuse que je n'ai pas eu mon poignard. Je suis une femme à présent. Désormais, c'est avec mon poignard que je répondrai à celles qui oseront disputer mon statut de Narchesca. Désormais, c'est avec mon poignard que je répondrai à celles qui oseront toucher à l'homme qui m'appartient.
J'observais Péotr à la dérobée. Il arborait un sourire carnassier. En deux enjambées, Eliania rejoignit Devoir, qui contemplait bouche bée son épouse débraillée. Sans plus de cérémonie que j'aurais saisi la crinière d'un cheval pour monter en selle, elle saisit sa queue de guerrier et le força à se pencher vers elle en lui ordonnant
« Maintenant, embrasse-moi !»
Un instant avant que leurs lèvres ne se touchent, il se coupa de ma présence d'art. Toutefois, pas plus qu'aucun des hommes qui assistaient à la scène, je n'eus besoin de l'art pour percevoir l'ardeur qui imprégnait leurs baisers. Elle plaqua sa bouche contre la sienne et, comme il la saisissait gauchement dans ses bras pour l'attirer, elle se laissa aller pour qu'il sente ses seins nus contre sa poitrine. Puis, elle s'écarta de lui et pendant que Devoir reprenait son souffle, un peu titubant, elle planta son regard dans le sien et lui rappela. « La tête de Classefeu sur la pierre d'âtre de mes mères. Alors seulement, tu pourras me donner le nom d'épouse. » Toujours dans les bras du prince, elle se tourna vers ses anciennes camarades de jeu et déclara
« Restez ici à jouer si cela vous chante. Moi, je ramène mon époux à la fête. »
Elle rompit son étreinte et reprit sa main. Il la suivit docilement avec un sourire béat. Lestra, assise par terre, les regarda s'éloigner, furieuse et humiliée. Des femmes poussèrent de grandes acclamations et quelques hommes des grognements jaloux quand elle passa dans la foule, triomphante, son trophée derrière elle. Du coin de l'œil, j'observais Péotr. Il avait l'air abasourdi, puis son regard se porta sur moi. « C'était nécessaire, » dit-il d'un ton grave. Elle devait s'imposer aux autres, les obliger à la considérer comme une femme et le prince comme sa propriété.
« J'ai vu, » répondis-je, sans chercher à le contredire. Pourtant, je ne le croyais pas. Ce qui venait de se produire ne cadrait pas avec ses projets pour Eliania et Devoir. J'en avais le sentiment. Il n'en devenait que plus indispensable de découvrir ses véritables desseins. Par contraste, la suite de la soirée me parut fade. Manger, boire, écouter les bardes outriliens ne pouvait se comparer à l'affirmation de pouvoir à laquelle j'avais assisté. Muni d'une tourte à la viande et d'une chope de bière, j'allais m'installer dans un coin et feignis de m'absorber dans mon repas, tout en artisant à Humbre ce dont j'avais été témoin.
« L'alliance se précise plus vite que je n'osais l'espérer, » me dit-il quand j'eus terminé. « Toutefois, je me méfie. Eliania désire-t-elle vraiment devoir pour époux, ou bien son esclandre n'avait-il d'autre but que de démontrer que nul ne peut lui dérober ce qu'elle prend ? Veut-elle user de ses appâts pour le pousser à tuer le dragon ?»
Je répondis en me sentant un peu bête. Je n'avais jamais songé jusqu'ici que, si elle épouse le prince et va vivre chez lui, certaines diront qu'elle laisse vacante sa place chez elle. Lestra a déclaré qu'elle deviendrait une inférieure dans la maison maternelle de son mari. Qu'est-ce que ça signifie ? Je sentis la réticence d'Imbre.
Je pense que les Outriliens emploient ce terme pour désigner une femme capturée lors d'une attaque, mais prise comme épouse et non comme esclave. Ses enfants n'ont pas de clan. On peut rapprocher ce statut de celui de bâtard.
Dans ce cas, pourquoi Eliania se prêterait-elle à ce mariage ? Pourquoi Péotre l'autoriserait-il ? Et si elle perd son titre de Narcheska en s'installant à Castelcerf, quel intérêt cette union présente-t-elle pour nous ?
Humbre, je n'y comprends plus rien. Trop de points restent obscurs, Fitz, en effet. Je pressens une volonté cachée. Ouvre l'œil.
Je demeurai donc vigilant pendant la longue soirée et la nuit plus longue encore. Le soleil se tapit juste en dessous de l'horizon, phénomène habituel dans ces contrées septentrionales, si bien que la nuit baigna dans une lumière crépusculaire. Quand l'heure vint pour le couple de se retirer, Devoir annonça qu'il ne quitterait pas le rez-de-chaussée, dans la salle commune, afin que nul ne puisse dire que j'ai pris ce que je n'ai pas mérité. Ce fut l'occasion d'un nouveau moment de gêne, comme la journée en avait connu plusieurs, et je vis Lestra, les lèvres tuméfiées, rire méchamment avec ses compagnes. Les deux jeunes gens se séparèrent au pied de l'escalier. Eliania empruntant les marches, Devoir allant s'asseoir aux côtés d'Imbre. Ils dormiraient entre les murs de la maison maternelle, ainsi qu'ils seyaient à un homme marié à une femme du clan, mais en bas, sur les bancs qui servaient aussi de lit, et non à l'étage avec Eliania. Ses gardes reçurent leur congé pour la nuit, et ils regagnèrent le quartier des guerriers, ou, dans certains cas, d'autres logements plus accueillants, du moment que leurs partenaires les hébergeaient hors de la maison des mères. J'aurais voulu me rapprocher d'Imbre et du prince pour m'entretenir en privé avec eux, mais cela aurait paru anormal. Aussi décidai-je de retourner dans la maison qu'on m'avait allouée. À peine étais-je sorti, et avais-je fait quelques pas sur l'allée, que j'entendis le gravier crisser sous des pas derrière moi. Jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, je vis Tram, accompagné d'un lest épuisé, au pas traînant. Le garçon avait les pommettes très rouges, et je le soupçonnais d'avoir bu plus que de raison. Tram m'adressa un hochement de tête, et je ralentis pour leur permettre de me rattraper.
« Belle fête, » dis-je pour entamer la conversation.
« Oui, je pense que les Outréliens considèrent maintenant notre prince comme marié à la Narcheska. Pour ma part, je croyais qu'il s'agissait seulement de confirmer leur fiançailles devant l'âtre de la mère d'Eliania. »
Il y avait une note interrogative dans sa voix. À mon avis, ces gens ne distinguent pas les couples qui se marient de ceux qui annoncent qu'ils vont se marier. Ici, les enfants et les propriétés appartiennent aux femmes, et l'on voit l'union d'un homme et d'une femme sous un autre jour. Il hocha lentement la tête.
« Aucune femme ne doute jamais qu'un petit est bien d'elle, » fit-il remarquer.
« Est-il important que les enfants soient sous la responsabilité de l'épouse plus que du mari ?»
demanda Lest avec curiosité. Il s'exprimait clairement, mais je sentis l'odeur du vin dans son haleine.
« Ça dépend de l'homme, je pense, » répondit Tram d'un ton grave.
Nous poursuivîmes un moment notre chemin en silence. Sans que ma volonté intervînt, mes pensées se portèrent sur Molly, Burick, Horty et moi. À qui appartenait ma fille à présent ? Comme nous nous approchions de la maison, j'observai qu'il ne s'élevait plus aucun bruit de la ville. Ceux qui ne participaient pas aux festivités de la maison maternelle dormaient depuis longtemps. J'ouvris la porte le plus doucement possible. Lourd avait grand besoin de se reposer, et je ne voulais pas le réveiller. Le ray de lumière qui entra en même temps que nous me montra Crible couché par terre près du lit du malade, un œil ouvert, la main sur son épée à nu posée à côté de lui. Quand il nous reconnut, sa paupière se rabaissa
et il replongea dans le sommeil. Je restai immobile près de l'entrée. Il y avait un intrus dans la maison dont Crible n'avait pas détecté la présence. De la taille d'un chat, dont il avait la rondeur, il portait le masque d'un furet et se tenait ramassé sur la table, sa queue touffue et annelée tendue toute droite derrière lui. Il nous surveillait, les yeux ronds, un morceau de notre fromage entre les pattes de devant. Les marques de ses dents aiguës étaient visibles dans la pâte.
« Qu'est-ce que c'est ?» soufflai-je à Trame.
« Je crois qu'on appelle ça un rat voleur, bien que ce ne soit pas un rat, à l'évidence. Je n'en avais jamais vu, » répondit-il tout aussi bas.
L'animal fixait toute son attention derrière nous, sur l'est. Je perçus, semblable à un murmure qui effleurait mes sens, le vif qui s'échangeait entre eux. Un sourire illuminait le visage du jeune garçon. Il nous bouscula pour s'avancer vers la créature. Je tendis la main vers lui, mais, avant que j'eusse le temps d'achever mon geste, celle de Trame s'abattit sur son épaule. Il le ramena brusquement en arrière, et ce mouvement inattendu fit tressaillir le rat voleur. Il dit à la créature, « Prends le fromage et va-t'en. » Puis, avec une dureté que je ne lui connaissais pas, il demanda à l'Est,
« À quoi jouais-tu ? N'as-tu pas retenu un mot de ce que j'essaye de t'inculquer ?»
En un clin d'œil, ravoleur et fromage disparurent par la fenêtre dans l'ondoiement d'une queue annelée. Le garçon poussa une exclamation de déception et tenta d'échapper à la poigne de Trame, mais le grand gaillard le tenait solidement. L'Est était furieux, surtout, je pense, en réaction à la colère manifeste du marin.
« Je n'ai fait que le saluer. J'aimais bien ce qui émanait de lui. Je sentais que nous nous entendrions bien et je voulais...
« Tu le voulais, comme un enfant veut un jouet peint de couleurs vives sur l'étal d'un colporteur. »
Trame parlait d'un ton sévère qui condamnait sans équivoque l'attitude de l'enfant. Il lâcha son épaule.
« Parce qu'il avait un beau pelage, qu'il était vif et rusé, aussi jeune et irréfléchi que toi, et aussi curieux. Il t'a répondu non parce qu'il cherchait un compagnon, mais parce que tu l'intriguais. On ne fonde pas un lien de vif là-dessus. En outre, tu n'as ni l'âge, ni la maturité pour te mettre en quête d'un partenaire. Si tu recommences... Je te punirai comme je punirais un enfant qui s'expose volontairement au danger ou qui y expose un de ses camarades. »
Crible s'était dressé sur un coude et suivait la discussion de la bouche entrouverte, ahuri. De notoriété publique, Trame et Lest appartenaient au clan de Vives de Devoir, mais je frissonnais, de peur rétrospective, en songeant que j'avais été à deux doigts de me trahir. Même Lourd avait soulevé à demi une paupière et nous regardait d'un air mécontent. L'Est se laissa tomber dans un fauteuil, la mine maussade.
« Danger ? Quel danger ? » ronchonna-t-il. « Que je trouve quelqu'un qui s'intéresse enfin à moi ? » ?»«
Non. Que tu te lies avec un animal dont tu ignores tout. A-t-il une compagne, des petits ? L'arracherais-tu à eux, ou bien resterais-tu sur l'île pendant que nous nous en irions ? Que mange-t-il ? À quelle fréquence ? Demeurerais-tu ici jusqu'à sa mort, ou bien le séparerais-tu de ceux de son espèce pour le ramener avec toi, le condamnant ainsi à un célibat définitif ? Tu n'as pas pensé à lui, Lest, ni à rien en dehors de l'instant de votre contact. Tu agis comme un homme ivre qui couche avec une jeune fille un soir sans songer au lendemain. Je ne puis excuser une telle conduite, pas plus qu'aucun autre membre du lignage. »
L'Est lui lança un regard mauvais. Sans comprendre l'origine du silence tendu qui s'ensuivit, Crible dit
« J'ignorais que les vifiers suivaient des règles pour se lier avec les animaux. Je croyais qu'ils pouvaient s'attacher n'importe lequel pour une heure ou pour un an. »
« Il s'agit d'une conception erronée, » répondit Trame avec effort, « que partagent nombre de gens qui n'appartiennent pas au lignage. C'est inévitable quand un peuple doit garder ses coutumes secrètes. » À l'abri des regards, mais ce mystère débouche sur la croyance que nous nous servons des bêtes comme d'outils et que nous nous en débarrassons quand nous n'en avons plus l'emploi. On a ainsi plus de facilité à imaginer que nous puissions ordonner à un ours de massacrer une famille ou envoyer un loup décimer un troupeau de moutons. Le lien de vif, ce n'est pas un homme qui impose sa volonté à un animal, c'est une union fondée sur le respect mutuel. Pour la vie. Comprends-tu cela, Lest ?
Je ne voulais rien faire de mal ?
Rétorqua le garçon d'un ton guindé où l'on ne sentait aucune volonté de récipiscence ni d'excuse.
Pas plus que l'enfant qui joue avec le feu et incendie une maison.
Ne pas avoir de mauvaises intentions ne suffit pas, Lest. Si tu tiens à faire partie du lignage, tu dois respecter nos lois et nos mœurs à tout instant, pas seulement quand ça t'arrange.
Et si je ne veux pas en faire partie ?
Demanda le fils de Burig d'un ton morose. Alors baptise-toi Pie, car c'est ce que tu deviendras. Tram inspira profondément, puis soupira longuement. Ou bien proscrit, ajouta-t-il à mi-voix. Je sentis l'effort qu'il lui coûta de ne pas me regarder en prononçant ces derniers mots. Mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se couperait volontairement de ses semblables.